watching a bird fly. You don't know where he'll go.
Get your freedom anywhere.
And you'll see him so free there in the sky full of
gold.
If you're watching... Est-ce qu'il va avoir une nouvelle vague? Une deuxième vague?
C'est une deuxième vague. Parce que je pense qu'une nouvelle vague, ostensiblement, c'est un band de bossa nova qui refont des tunes de punk des années 80, si je comprends bien.
Ouais, mais ça va, okay, ça veut dire qu'il va potentiellement avoir une deuxième vague.
J'aime mieux la deuxième vague qu'une nouvelle vague, honnêtement.
En attendant, ici, on n'est pas au voyeur de vagues, mais bien au voyeur de vues.
C'est vrai.
Bienvenue au Voyeur de vue, un podcast où on discute de vue. Je suis Yannick Belzile.
Et je suis Alex Rose.
Comment ça va, Alex?
Ah, ça va. Ça va, ça va. J'avais repogné un beat d'écouter des films. Tu sais, on en a parlé déjà, je fais tous les jams de la pandémie encore. Mm-hmm. Sensiblement que là, vu qu'on est dans une deuxième vague, on va reconfiner, ça a été correct. Mais pendant un bout, c'était vraiment juste les jams du chômage, là, dans le fond. Là, ce qui arrive, c'est que genre, je suis comme, bon, je vais partir un film, puis là, le prochain 10 dans ma pile de jam, je suis comme, ouh, mais j'ai le goût d'écouter ça. Puis là, je me retrouve, il est 1h du matin, puis je suis comme, j'ai regardé aucun film, puis là, j'ai avancé. Vous allez sur Instagram, sur mon Instagram, moi, ouais, il existe, vous allez voir tous les 10 que j'ai plus le goût d'écouter que de regarder des films. Fait que, c'est ça, ça va correct, là. C'est sûr, c'est poche, là, qu'il y ait possiblement un reconfinement. Ça rend pas les gens joyeux. Mais bon,
qu'est-ce que tu veux qu'on... En attendant, il faut juste faire attention, prendre des mesures de sécurité, puis regarder des vues.
Mm-hmm.
C'est possible, ça s'offre à nous. Puis on va diriger les gens à travers l'éventail des vues qu'ils pourraient regarder ou ne pas regarder.
L'éventail, oui.
Et cette semaine, moi, je vais commencer avec un film que j'ai vu. J'ai vu un documentaire cette semaine. Qui est sorti sur Crave. Aux États-Unis, il sort sur... c'est une production HBO Max. C'est Class Action Park. C'est un film qui est réalisé par Seth Porges et Chris Charles Scott III. Et Action Park, c'est un genre de parc d'attractions slash glissade d'eau qui a été construit, érigé au New Jersey dans les années fin 70, en fait 80-90. Ça a existé pendant quasiment 20 ans.
Mm-hmm.
Et la légende qui s'est formée autour de Action Park, qui en plus était le sujet d'une comédie avec Johnny Knoxville il y a une couple d'années.
Mm-hmm.
Mais la légende qui s'est bâtie autour de Action Park, c'est que c'était une place, c'était un parc d'attractions, mais c'était aussi un endroit extrêmement dangereux. C'est le parc d'attractions où tu pouvais te faire mal parce que c'était construit un peu tout croche, ainsi que géré un peu tout croche, surtout par des adolescents qui avaient de l'accès à l'alcool. Il y avait de l'accès à l'alcool à foison dans le parc. Et ce que le film, ce que le documentaire nous raconte, qui est narré par John Hodgman, qui fait un très bon job, c'est à quel point cet endroit était rempli de caractère, mais était aussi vraiment dangereux. Et ça a été créé par un homme, un peu dont je me souviens pas le nom immédiatement, Drett, là, mais que lui a fondé ce qu'il voulait. Comme il voulait, et que pendant bien des années, c'était un triomphe, mais que ça a été aussi extrêmement dangereux, comme un des, mm-hmm. des surnoms, c'était justement Class Action Park, ou même Traction Park, comme, tu sais, ça allait pas bien, là, tu sais. Le monde se blessait souvent. C'est ça, c'était fondé par Gene Mulvihill, qui avait comme acheté comme la pente de ski à côté, puis pendant, tu sais, aussi, c'était le premier genre parc de glissade d'eau.
Mm-hmm.
Parce que des glissades d'eau, ça n'existait pas vraiment avant. Puis la genèse ou le génie de ça, c'était comme, ben tu sais, on a une pente de ski. Qu'est-ce qui pourrait être comme du ski, mais l'été? c'est comme ça que ça a été inventé. Ouais. C'est ça qu'on découvre à travers Class Action Park. Et c'est ça, c'est un bon documentaire pop.
Mm-hmm.
Intéressant, Ou que tu vas comme un peu, pour la plupart, avoir du fun à découvrir quelque chose qui est saugrenu. Il y a un aspect qui est très Tiger King, dans la façon où ce que c'est... tu sais, t'écoutes, j'ai pas tout écouté Tiger King, j'en ai écouté comme la moitié, mais tu sais, t'es rendu, même au troisième épisode, tu découvres encore des personnages saugrenus qui ont pas d'allure. Ben, Class Action Park dure comme 90 minutes, puis à la 50e minute, il te montre encore des nouveaux manèges dangereux que t'es comme... Voyons donc voir qu'il y a ça en plus, tu sais. Ouais. Il y a Waterworld, puis là, t'sais, d'ailleurs, tu sais, c'est un parc qui est séparé en deux par une autoroute. L'autre bord, tu réalises, ah, c'est vrai, il y a Waterworld. Il y a des go-karts dangereux aussi de l'autre côté de l'autoroute. Ça l'arrête pas.
Ouais.
Et la particularité, puis là, tu sais, ça, c'est... Il y a plein d'intervenants. Il y a surtout des anciens travailleurs du parc que tu vois qui sont tous... en tout cas, c'est dangereux, mais c'était le fun. Il y a Chris Gathard, qui est là, qui est intervenant beaucoup, qui apporte beaucoup au documentaire, qui est l'improvisateur, puis aussi un peu stand-up, on pourrait dire. Chris Gathard, il est du moins le raconteur.
Il est humoriste, là, genre, dans la façon la plus broad. Tu sais, parce que je sais pas, il faisait le Chris Gathard Show, là, qui était comme... En tout cas, mais ouais, mais moi, c'est
un truc humoristique.
Tout ce que je sais de Action Park, ça vient de Chris Gathard, en fait, qui en parle dans les podcasts. Mm-hmm. Parce que, tu sais, lui a travaillé quelques années à une revue qui s'appelait comme Weird Jersey, ou une affaire de même. Tu sais, qui allait chercher des affaires incongrues et saugrenues au New Jersey. Fait que, tu sais, dès qu'il y a un deep dive, un podcast quelconque qui dure plus que deux heures avec Chris Gathard, Best Billy, qui va te parler de ça, puis du pork roll, tu sais, les genres de... Ça semble être du genre de ballonné croton que tu mets dans des sandwichs à déjeuner au New Jersey. Fait que tout ce que je sais de ça, parce que j'ai pas vu le film avec Johnny Knoxville, vient de Chris Gathard.
Mm-hmm. Fait que tu sais, l'affaire que je trouve intéressante avec le documentaire-là, tu sais, c'est comme. Il y a un aspect que c'est très. C'est la version documentaire des memes de Facebook de. Qui montre une photo d'une émission pour enfants des années 80 puis dit. Si tu connais cette image-là, ça veut dire que tu as eu une belle enfance.
Ouais.
Qui est, en tout cas, extrêmement quétaine, mais bref.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que, tu sais, il y a beaucoup... Ça parle beaucoup couramment de le Action Park a une identité très New Jersey-esque de « Ceci est un parc d'attractions Buckwild. Ceci est une place où on se fait mal, mais c'est là où qu'on... » On devenait des ados. C'est correct de se faire mal quand t'es loin de tes parents. À cette heure, ça n'existerait plus. Tout le monde est mièvre maintenant comparé à jadis.
Mm-hmm.
Et tu sais, il y a beaucoup de ça. Mais là où ce que le un moment donné, le film prend un certain tournant où ça va se mettre à se raconter comme. Tu sais, tout le monde dit « Ah oui, c'est vrai, il y a du monde qui sont morts à Action Park. » Ben, un moment donné, tu vas voir du monde dont que leur enfant est mort à Action Park. Puis, il parle comme plus sérieusement de ben, regarde, mon fils est allé là, puis il est mort, puis tu sais, fait que pour tout, là, c'est-tu que c'était le fun? Ah, lol, ça fait partie de la légende que du monde meurt là.
Ouais.
Après, ils vont vraiment sérieusement dans ouais, ben, voici la famille de quelqu'un qui est mort là. Puis, je sais pas si le film est comme assez flexible pour parler de ça, mais en même temps, je trouve ça vraiment. Important qu'ils fassent ça.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais, ça parle beaucoup de... Tu sais, des États-Unis des années 80, puis quand... l'époque de Ronald Reagan, tu sais, ça parle de la dérégulation que Ronald Reagan, il a comme enlevé plein de restrictions sur des business pis des affaires comme ça. Puis comment que... C'est pour ça que dans les années 80, il y a comme un esprit de commerce et de business qui est très fier et rempli d'énergie. Mais qui est aussi croche et sale.
Ben, et le résultat ultime de ça, c'est Donald Trump devenir président. Ben, à la base. Là.
Ben oui, puis le président des États-Unis a un petit caméo dans Action Park. Mais tu sais, je trouve ça intéressant que le film est comme ça, dans le fond. C'est comme, ah ouais, on pensait tout que c'était le fun dans le temps, mais cependant. Check, il y a du monde qui sont morts pour de vrai. Puis, je trouve que même si ça le fait pas, ça fait pas son point de façon super habile, c'est plus important que ce soit là-dedans que ça le souhaite pas. Et fait que j'ai bien aimé ça, mais sinon ça reste tout de même, malgré ces instants-là, comme un documentaire qui s'écoute bien, comme on a fait ma copine et moi un vendredi soir. Ça le dit, ma copine et moi étant tous les deux des wuss, c'était pas tant léger à écouter, parce qu'à chaque fois qu'on voit un nouveau malade, j'ai comme, il n'y aurait jamais là-dedans, jamais là-dedans. Jamais.
Ça va être ma prochaine question. T'es-tu une personne de manège? L'as-tu déjà été? Ou...
Ben, j'ai déjà fait quelques manèges quand j'étais jeune, mais premièrement, à cette heure, juste le facteur attente, je suis comme non.
Ouais.
Non, il n'y a rien qui vaut ça. Mais quand j'étais jeune, il y a quelques manèges que j'ai fait, mais sinon, pour la plupart, je trouvais ça faisait peur, puis aussi j'avais peur de vomir en public trop facilement. Je dirais que c'est plus une question de fierté que d'autres choses. Mais il y a bien des affaires, tu vois, il y a des trucs dans Action Park que c'est le gars qui l'a fondé, qui l'a designé, mais il n'y a aucun skill de design. Fait qu'il est juste comme, hey, ça serait cool une glissade d'eau qui fait un loop. Puis là, tu puis qu'il donnait des billes de sang à ses employés pour qu'ils testent. Puis comme, il y a plein d'affaires comme ça, des anecdotes comme de, c'était comme pas loin de Vernon au New Jersey, c'est une petite ville, qui avait comme juste deux ambulances, puis il était tout le temps occupé l'été par Action Park. Fait qu'il a comme la chambre des commerces a comme forcé Action Park de payer sa propre ambulance parce qu'il y avait trop de monde qui se blessait, des affaires comme ça. Bref, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça intéressant. Puis ça s'écoute bien. C'est une bonne écoute semi-légère. Action Park est disponible sur Crave. Visionnez-le.
Ben, on va parler de. En parlant de documentaire, moi aussi, j'ai visionné cette semaine un documentaire. J'ai regardé Beastie Boys Story, le documentaire de Spike Jones sur les Beastie Boys. En fait, on dit documentaire, mais là, pour vrai. Ce que c'est une performance filmée, une genre de conférence que les Beastie Boys ont donné. En fait, ils en ont donné deux. Ça doit être un montage des deux. À New York, l'an passé, au printemps de l'an passé. Pour coïncider, dans le fond, avec la sortie de leur livre Beastie Boys Book. Qui est un vraiment cool livre. Là, si jamais, si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas entendu parler, mais vous aimez les Beastie Boys. C'est un gros livre avec beaucoup d'images, mais tu sais, beaucoup de... T'sais, c'est très free-for-all comme concept de livre. Là, c'est grosso modo en ordre chronologique, mais t'sais, des fois, ça va être... voici trois pages des samples qui sont sur tel album. Voici des photos de nos pédales de git. Puis après ça, voici quatre chapitres sur notre vie. En tout cas, puis... fait que, ayant déjà lu le livre, moi, j'étais quand même curieux de voir le documentaire. Et je vais te dire tout de suite, si vous êtes pas un gros fan des Beastie Boys, puis si vous avez pas lu le livre, commencez par lire le livre. Parce que, dans le fond... Non, attends, je suis pas sûr si ça fait du sens ce que je viens de dire. Dans le fond, je sais pas vraiment à qui le film s'adresse. Parce que c'est un film pour les fans, mais qui est quand même plus en survol. Ben, tu sais, évidemment parce qu'un film va être en survol, mais qui semble vraiment quand même être construit de façon à être grand public. Mais tu sais, je peux pas imaginer quelqu'un qui voit ça, qui a aucune calée d'idée c'est qui les Beastie Boys. Tu sais, je comprends pas comment ça se peut. Fait que tu sais, parce que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est les deux Beastie Boys qui restent, Mike D et Ad Rock, qui maintenant sont des pères, là, qui ont comme 60 ans, qui parlent, sont sur un stage, ils parlent de leur vie, puis il y a un genre de concept PowerPoint un peu où ce que tu sais, on voit de temps en temps des clips, des photos, des trucs duquel ils parlent. Et ça va grosso modo chronologique. T'sais, le gros thème, quasiment plus dans le film que dans le livre, c'est que Adam York, le troisième Beastie Boy qui est décédé en 2012, c'est un peu plus. Le film est un peu plus un hommage à lui. T'sais, dans le sens où c'est plus structuré pour dire, tu sais, puis là, Adam a fait telle affaire, puis, tu sais, c'est super, c'était super touchant. Little did we know que, tu sais, ça allait venir à ça. Tu sais, c'est un peu plus construit comme un hommage, tu sais. Je dirais, dans la même mesure où le special d'Adam Sandler devient à la fin un hommage à Chris Farley, tu sais. C'est un peu ça qui arrive avec le film. Là, je sais pas si ça constitue un spoiler. Il y a eu des commentaires que j'utilise, je fais trop de spoilers quand je parle des films qui sont pas, surtout pas les films de la semaine. Mais là, c'est un documentaire. J'espère que ça n'est pas un spoiler de dire que ça parle plus du membre qui est mort que, tu sais. Parce que, mettons, il passe de l'album de 94, Ill Communication. Puis après ça, il y a juste. Ou Hello Nasty, 98. Après ça, il y a juste comme s'il n'y a plus d'album. Après ça, ça va directement à la mort de. Mm-hmm. York, qui était comme en 2012. Fait que, tu sais, si ce que tu cherches, c'est vraiment une exploration compréhensive de leur carrière, c'est pas ça qui arrive. Après ça, peut-être que le show sur le stage, tu sais, pour les gens qui étaient là, c'était ça. C'est pas ça qu'il y a dans le film. Moi, tu sais, je veux dire, comme introduction au Beastie Boys, je te dirais, c'est pas très bon. Tu sais, je pense pas que. Ça peut être un peu aliénant, tu sais, parce qu'ils vont souvent aller autant dans les anecdotes que dans la biographie, mais plus dans le ressenti, tu sais. Parce que maintenant, il y a beaucoup de controverses, tu sais, les Beastie Boys. Un peu leur arc narratif, c'est qu'ils ont commencé avec Fight for Your Right, qui est une toune qu'ils renient maintenant, tu sais, qu'ils aiment pas, puis ils aiment pas l'image qu'ils ont dû comme projeter pour quand cette toune-là est devenue un hit, tout ça.
Ben, des petits garnements.
C'est
là,
ça, tu sais, qui veulent faire le party, puis genre, qui veulent voir des tatons, puis qui veulent, tu sais. Puis ça, ils sont vraiment passés loin de ça après, tu sais. Puis, fait que c'est ça qui teinte, en fait, tout le film, c'est ils sont tout en train de revenir, puis de dire, tu sais, on n'était plus le monde qui était Fight for Your Right. On était ci, on était ça. T'sais, tandis que, mettons, le livre pour moi était vraiment intéressant parce que ça parlait plus de t'sais, leurs influences, la façon qu'eux jouent de la musique, t'sais, la façon que ils ont, mettons, construit toutes ces idées de sample là, puis t'sais, comment est-ce qu'ils ont pris t'sais, le métissage de style qui a construit l'œuvre des Beastie Boys. Ils parlent pas vraiment de ça dans le film. En même temps, là, c'est un film, le livre, c'est un esti de gros livre de comme 700 pages. Je comprends qu'ils peuvent pas tout dire, mais le survol en tant que tel est un peu inside baseball pour quelqu'un qui connaît pas du tout ça, mais un peu simple pour quelqu'un qui aime vraiment ça. Fait que quand tu es comme moi, mettons, puis tu as lu le livre, puis tu connais les disques, tout ça, c'est un compagnon. T'sais, ça l'accompagne bien ce que tu sais déjà, mais j'ai rien vraiment appris en regardant le film. Que je savais pas déjà qu'il était pas déjà dans le livre. Ceci dit, c'est très entertaining, ils sont très charismatiques. Il y a beaucoup de genre de batifolage, là, ils font semblant d'être fâchés un après l'autre, ils font semblant de se tromper avec le prompter et des affaires de même. Tu sais, qui sont scriptés.
Ils sont encore des petits coquins, finalement, des petits garnements.
Ils sont encore des petits coquins, quand même, jusqu'à un certain niveau. Puis, tu sais, pendant les credits, il y a comme des. Pendant le générique, il y a. Je me sens. Il y a Ben Stiller, David Cross, puis Steve Buscemi, qui jouent comme des gens qui leur posent des questions, puis c'est des questions de petits coquins.
Mm-hmm.
Mais tu sais, c'est encore. Coquino vaudeville un peu. Je trouve que ça. Surtout au début, ça va. Les faux fuck, là, tu sais, les faux bloopers qu'ils mettent dedans sont assez. C'est un peu niaiseux, là, tu sais, c'est pas... La première fois, je pensais que c'était une vraie erreur. Puis après ça, la deuxième, j'étais comme, OK, non, c'est vraiment genre, tu sais, fool me once, shame on me, mais... tu sais, je sais pas. Fait que c'est ça, c'est sur Apple TV+. Tu sais, je dirais pas de prendre le service juste pour voir ça, même à moins que vous soyez vraiment fan. Mais si vous êtes vraiment fan, vous l'avez probablement déjà regardé. Fait que, tu sais... C'est ça, le Catch-22 de Beastie Boys Story, c'est... C'est super bien fait, c'est super le fun, mais c'est un peu comme... Je sais pas, c'est très réconfortant, mettons, mais c'est pas
ouais,
très...
c'est comme... C'est prendre un bon bain chaud d'une c'est affaire ça. Que t'aimes déjà, là.
C'est ça. Fait que, tu sais, je pourrais pas... En même temps, là, je peux pas me mettre dans les pieds, dans les souliers de quelqu'un d'autre et dire, ben, tu sais... En tant que. Mettons, si j'avais pas connu du tout le band, ça aurait fait. Je peux pas. C'est indissociable pour moi ce que je sais déjà puis ce que le film me révèle. Mais. Ouais, tu sais, j'ai eu du fun à le regarder, mais c'est sûr que plus tu y penses, plus t'es comme, ouais. Tu sais, qu'est-ce que j'ai vraiment. Qu'est-ce que c'était réellement, là, tu sais, je sais pas. C'est quoi là. Mais j'ai ça beaucoup avec. Tu sais, pour être bien honnête, avec beaucoup de documentaires de musique. À moins, tu sais, comme je me pensais, mettons, au documentaire des Stooges de Jim Jarmusch. T'sais, j'aime vraiment les Stooges, j'aime vraiment Jim Jarmusch. Quand tu regardes le film, t'es comme, Chris, ça a dû vraiment être le fun à faire. Tu sais, aller chercher des archives puis monter ça, tu sais, puis c'est quelque chose comme quasiment que je peux imaginer quelqu'un faire juste pour le fun, tu sais. Mais quand je le regarde, je suis comme, ouais, ben, c'est toutes des tunes que je connais, puis des choses que je sais placer dans un dans un ordre plus ou moins prévisible de comment on allait le voir. Puis Iggy Pop, il est interviewé en bedaine assis devant une sécheuse. Puis, tu sais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, je dirais que Beastie Boys Story est un petit peu plus recherché, tu sais, que... Ou pas recherché, mais plus personnel, tu sais, puis plus... avec, ouais, c'est ça. Avec, c'est plus incarné. Il y a plus de personnalité que juste une musicographie de type Musimax. Sauf que à la base, tu sais, je pense que ce qu'on en retire est essentiellement la même affaire.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, kudos, c'est bien fait, mais c'est pas... c'est ça. C'est très le fun, puis c'est, ça s'arrête à peu près.
Est-ce qu'à la fin du documentaire de The Stooge, Iggy Pop ouvre la sécheuse et en retire une chemise, puis là, il y a bouton, puis il se met, puis il s'en va, dit... Salut les gars, c'était le fun.
Je pense que d'ailleurs, à un moment donné, dans le documentaire, il change de spot. T'sais, il est plus devant la sécheuse. Là. C'est comme, qu'est-ce qui a mené à cette décision? Qu'est-ce qui a fait que c'était acceptable d'être devant la sécheuse au début? Puis à un moment donné, ils ont dit, non, on peut pas être devant la sécheuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas.
Ne le saurons-nous jamais. Ben, moi, je vais passer à mon deuxième film de la semaine. Regarde, on parle de films qui présentent des sujets à des gens. Et ça, c'est, je te dirais que c'est pas mal ça que le deuxième film que j'ai vu cette semaine. J'ai vu On the Basis of Sex, qui est un film basé sur une partie de la vie de Ruth Bader Ginsburg, qui est une femme qui est réalisée par Mimi Leder, puis qui met en vedette Felicity Jones et Armie Hammer. Ainsi qu'il y a Justin Theroux qui est dans le mix, dans le rôle d'un jeune John Slattery. Katie Bates est là. Sam Waterston est là. Ils l'ont sorti du réfrigérateur ou ce qui est pour apparaître une fois par saison à Law & Order. Et puis, on l'a écouté parce que justement, ce vendredi, Ruth Bader Ginsburg était sur la Cour suprême, qui est à la Cour suprême des États-Unis, a trépassé et, en trépassant, crée une inégalité au niveau de la Cour suprême des États-Unis en faveur des républicains. Alors, potentiellement que son trépas mène à une génération de Jean Bonnage républicain à la Cour suprême et une attaque sur les droits acquis des femmes. Et justement, le début de l'acquisition de bien de ces droits-là, On voit ça dans le film On the Basis of Sex parce qu'on suit. Tu vois comment j'essaie de sauter par-dessus l'idée vraiment triste et dépressive de penser à ce qui va arriver aux droits des femmes et de bien d'autres gens aux États-Unis dans la prochaine génération à cause de son décès. Mais bref, le film parle de Ruth Bader Ginsburg et nous amène à sa première journée à l'école. Ça commence avec sa première journée à Harvard où elle va justement étudier le droit et on va un peu plus loin où elle devient professeure. Et quand elle décide de s'impliquer dans un cas avec pour représenter les droits d'un homme qui ne peut pas, qui est discriminé de pouvoir payer pour une infirmière pour sa mère parce qu'il est un homme non marié et que cet argent-là devrait juste aller à des femmes. Et sur la base de cette discrimination-là, elle utilise ça pour faire changer ces lois-là et par conséquent faire changer des tonnes et des tonnes de lois des États-Unis parce qu'une fois que tu prouves le précédent que la discrimination pour une loi, tu peux l'utiliser pour débusquer d'autres lois qui sont vraiment sexistes. Alors, on suit la vie justement de Ruth Bader Ginsburg avec son mari, sa fille qui grandit puis qui devient une personne un peu tête de cochon, un peu comme elle. Et le tout culmine en genre de drame de cours.
Mm-hmm.
Et je dirais que si on connaît pas la femme et ce qu'elle a fait. Ce film-là, c'est comme un pas pire portrait de la personne et ce qu'elle a entamé. Mais c'est un film qui est extrêmement tiède, mettons.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est je peux m'imaginer que ce film-là est peut-être montré genre à l'école primaire ou à l'école secondaire par un prof qui est comme « Ah, ça me tente pas d'enseigner aujourd'hui.
» Ouais.
On va leur montrer c'est qui, cette dame-là, avec 7h40 mm-hmm. de Ah non, en fait, c'est 2h. Tu sais, bref, avec ce film-là, ils vont... Fait que, tu sais, on apprend bien des affaires sur cette femme-là, puis ce qu'elle a fait, puis ça, c'est vraiment important. Et le bout tribunal vers la fin est le meilleur bout du film. En ce qui me concerne, il aurait peut-être dû essayer de faire un film entièrement de drame judiciaire.
Mm-hmm.
Ça aurait été plus excitant. Mais c'est ça, c'est un film qui est juste là, qui est correct, qui est, en fait, il est disponible aussi sur Crave en ce moment en streaming. Mais vu que je pense que c'est important de savoir c'est qui cette femme-là, puis ce qu'elle a fait, c'est comme c'est correct que ce soit juste correct. Ouais. C'est un peu là que j'arrive. Ça a son utilité comme éducative, mm-hmm. éducatrice. Puis c'est dommage que c'est facile de le nommer, mais que, parce qu'il y a des torts comme des défauts, mais que c'est pas, mettons, une affaire d'Aaron Sorkin ou qui aurait vraiment jazzé ça puis rendu ça plus gros. Quelqu'un d'autre qui aurait peut-être rendu ça plus big, tu sais.
Ben, c'est un peu ça. T'sais. Moi, je l'ai vu, ce film-là, puis pour vrai, tu sais, je me souviens de... À part que les choses que je savais déjà ou que ça l'a confirmé sur Ruth Bader Ginsburg, je me souviens presque à rien, tu sais, de la mécanique ou whatever, de qu'est-ce qui se passe dans le film. Ça fait même pas 2 ans que c'est sorti, là. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que le film plus intéressant de ça est peut-être moins utile à ce que le film devrait, tu sais. Un film plus intéressant, parce que moi, ce que je me souviens, c'est qu'elle est quand même, tu sais, c'est pas un gros... ça va pas profond dans son personnage, mettons. Tu sais, elle est très, comme, emblématique, un peu iconique, mais pas vraiment humaine, de ce que je me souviens, mais là, encore là, tu sais, comme je te dis, tu sais, c'est beaucoup dans la... parler comme elle, avoir l'air d'elle, tu sais, représenter ce qu'elle représente, sans nécessairement dire, ben, c'était qui cette femme-là, tu sais, c'est... Qu'est-ce qu'elle était comme personne? Puis, l'affaire, c'est que faire ce film-là, ben, ça enlève immédiatement le focus sur ce que le film a, tu sais, pourquoi elle est importante dans l'histoire de l'Amérique, mettons.
Mm-hmm.
Fait que ça fuck, tu sais, la semaine passée, j'en ai pas parlé au show, mais il y a peut-être 2 semaines... J'ai regardé la biopic de Helen Reddy, qui était comme une chanteuse des années 70, quand même, AM, vraiment quétaine, là, c'est quand même quétaine, là, du Helen Reddy, ça, c'est très, très... elle porte un long suit avec des paillettes, puis tu sais, elle est dans des casinos, puis enfin, dans même. Mais je trouvais que ce qui était intéressant, c'est que ça prenait vraiment le carcan d'un biopic de rock, puis ça l'appliquait à quelqu'un qui rockait zéro. Tu sais, Helen Reddy, mettons, elle a jamais tiré une TV par une fenêtre, elle a jamais fait, tu sais, des orgies de coke avec Led Zeppelin ou whatever, mais c'est quand même formaté comme ça. Puis dans mon review, j'étais comme la version la plus intéressante de Helen Reddy qui nous démontre vraiment, tu sais, au lieu de passer biographiquement les points de toute sa vie, tu sais, puis... La version où c'est vraiment qu'est-ce que Helen Reddy représentait, t'sais, qu'est-ce que c'est d'être ce genre de personnalité, ce genre de chanteuse-là à cette époque-là, t'sais, qu'est-ce que ça... Ce film-là pourra pas se faire, t'sais, ça sera pas... Ça serait une intention complètement différente. Comme, mettons, là, je suis encore un peu en train de me parler tout seul, là, mais Last Days de Gus Van Sant, qui est ostensiblement un film sur Kurt Cobain, t'sais.
Mais Kurt Cobain... entre guillemets, là.
C'est ça, tu sais. Puis c'est Kurt Cobain qui fait rien, qui joue de la guitare, qui mange du macaroni au fromage. Moi, j'aime vraiment ce film-là parce qu'il se passe absolument rien dedans. Mais tu sais, c'est un aspect de, mettons, ce que ça devait être Kurt Cobain, mais on s'entend que c'est quand même champ gauche comparé au biopic inévitable qu'on va voir un jour, resti de... Tu sais, c'est sûr que ça va arriver, là, le biopic de Nirvana.
Ah, oh, man.
Ça sent bien, hein? Ça devrait pas être trop long, là.
S'il n'y avait pas de COVID, en dedans de 5 ans.
Ouais.
en dans de 5 ans, il y a un film qui sort qui s'appelle Smells Like Teen Spirit, puis c'est ça.
Ouais.
Puis... je saurais pas qui serait un jeune Kirk. Un jeune Kurt là-dedans. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que ça s'en vient, là.
Puis, tu sais, ça pourrait être... tu sais, le gars qui joue dans... dans Succession, Cousin Greg, là. Je sais pas c'est quoi le nom de cet acteur-là. Il est fucking grand, là. C'est un esti de grand flamou, là. Il mesure comme 6 pieds 7. Ça pourrait être lui qui joue Chris Novoselic, là. Juste un esti de grande parche. Il est comme... En tout cas... mais ouais, c'est ça. Tu vas revenir en The Basis of Sex. Je pense que, justement... C'est ça qui est touché avec faire un film sur quelque chose qui, tu sais, qui a une conscience sociale puis une importance sociale. C'est que c'est pas tout le temps... Pas parce que c'est important que c'est intéressant, nécessairement. Mm-hmm. Ou vice-versa. C'est pas parce que c'est... Ça, c'est là, peut-être que je parle de moi spécifiquement. Mais tu sais, moi, les affaires... Je trouve que l'importance de quelque chose, tu sais, l'aura que quelque chose d'important prend avant même de faire un film... fait comme la job. Dans le sens que, tu sais, j'ai pas besoin de voir... c'est un film sur le 11 septembre, mettons. Parce que, tu sais, tout ce qu'on sait, même si j'étais... Ou le 11 septembre, c'est pas un bon exemple parce que j'étais vivant.
Ben, si tu veux voir un film avec le 11 septembre, tu veux quelque chose qui te surprend comme Remember Me exact. Avec Robert Pattinson.
Voilà. Mais tu sais, je pense que c'est ça justement, tu sais, puis... Une des autres affaires avec quelque chose comme ça, tu sais, avec On the Basis of Sex, c'est que, tu sais, il faut que ça finisse... Ça peut pas juste finir en queue de poisson ou, tu sais... en entonnoir ou whatever, fait il faut que ça soit comme, puis là, elle a accompli ça, puis tout s'est bien passé après, mais on sait forcément que c'est pas ça qui est arrivé. Tu sais, c'est important ce qu'elle a fait, mais, tu sais, pour rentrer dans la structure d'un film qui est, comme tu dis, qui est assez tiède, qui est assez beige, il faut faire des concessions qui sont, je sais pas, tu sais, peut-être pas malhonnêtes, mais, tu sais, ceci dit, tu sais, je veux dire, c'est hot qu'il y ait un film sur Ruth Bader Ginsburg, c'est hot que ce soit une femme qui l'ait réalisé, même si tu sais, je veux dire, on s'entend, Mimi Rader était dans Hollywood Jail là, pendant super longtemps, qu'elle disait, parce que, tu sais, je sais pas trop, elle a fait un film qui était de la merde, là. Je pense que c'est Pay It Forward avec Kevin Spacey.
OK, moi, ça t'envoie au cachot, là.
Fait qu'elle a été au cachot super longtemps, tu sais, extrêmement, ben trop longtemps, là, ça part à part. Mais,
t'as peu, je fais juste dire, elle a aussi fait comme Deep Impact.
Ça, c'était avant, ouais.
Ouais, mais parce que, t'as peu, Letterboxd le met pas en ordre sur Peacemaker, OK, ouais. Plein d'affaires. Mark for Murder avec Powers Booth et Billy Dee Williams. Ça
ouais, du TV en masse. Ça, mm-hmm. Je pense qu'elle a fait en masse de TV entre. Parce que c'est ça. Après Pay It Forward, 10 ans plus tard, elle a fait un film que je me souviens qui est sorti quand je travaillais au club vidéo qui s'appelle Thick as Thieves. Un straight to DVD avec Morgan Freeman et Antonio Banderas.
Mm-hmm. Ouais, là, ouais, je le vois direct là.
Puis là, ça a été un autre quasiment 10 ans avant qu'elle fasse un autre film. Fait que tu sais, entre temps, elle a fait beaucoup de TV, Shameless. Smash, The Leftovers, tu sais, elle a réalisé beaucoup d'affaires de même. Fait que c'est pas comme si elle travaillait pas, mais tu sais, c'est bien. Genre, j'encourage le fait qu'il y ait ce film-là, même quand c'est un film que tu trouves à la base. Je pense que justement, c'est ça. C'est, quand tu parlais du film tantôt, je pensais, tu sais, un film comme On the Basis of Sex avant, c'était un téléfilm. Tu sais, ça aurait pu être un téléfilm avec une star, là, mais ça aurait été comme. Quelque chose qui passe à ABC le dimanche soir, puis ça veut pas dire qu'il y en a pas des bons, là, mais tu sais, ça aurait été. C'est là que tu vois vraiment que c'est fonctionnel en tant que tel. Tu sais, ça existe pour remplir une fonction. Puis, je sais pas, je pense que je me perds un peu dans mes pensées.
Non, mais je trouve que t'as raison parce que tu sais, la présence de Sam Waterston de Law and Order là-dedans.
Ouais. C'est très téléfilm.
Puis là, soudainement, t'es comme, oh shit, oui, c'est vrai que pour la plupart, ça ressemble vraiment à un épisode de Law and Order. Mm-hmm. Surtout la partie Order, la partie que tu sais, sont pas dans la rue, là. C'est tous des bureaux avec des boiseries, puis ils parlent des droits, des affaires comme ça. Mais ouais. C'est ça, tu sais, c'est une bonne façon, comme, tu sais, s'il y en a que cette semaine, ils ont entendu parler de tout ça, puis c'est qui cette femme-là, puis ils veulent quelque chose de une page Wikipédia toute pas pire dramatisée.
Ouais.
C'est pas une mauvaise façon de prendre de quoi sur la femme.
Mm-hmm, mm-hmm. Ouais, c'est ça. C'est l'affaire, justement, le problème aussi avec ça, c'est le regarder dans une classe quand t'as 14 ans, c'est sûr que tu t'en calisses. C'est mm-hmm. ça le problème. C'est le catch-22 de ce film. Mais, ouais. Tourné à Montréal, d'ailleurs, en The Basis of Sex.
Ah ouais, je ne savais pas, je savais pas.
J'ai pas fait de Made in Montreal dessus parce qu'on voit presque rien.
Ouais, ben justement, y a rien qui me sautait à... Je ne le savais pas, mais même là, il n'y a rien qui me saute au visage comme étant particulièrement montréalais. Ouais, c'est ça. Hey, on a quasiment des liens thématiques cette semaine, là, de vraies choses, de choses présentées. Là. Certains pensaient comme... Mettent-ils un effort dans leur line-up, mais c'est tout arrivé organiquement. C'est tout arrivé organiquement.
Là, je m'en vais tout péter ça avec une affaire qui est pas vraie.
Quoi?
J'ai vu le film La déesse des mouches à feu, qui là, il va sortir vendredi. Fait que, tu sais, ostensiblement, là, je vais faire vraiment attention de ne pas faire de spoiler parce que c'est pas encore sorti. Puis d'ailleurs, le seul spoiler que je vais faire, c'est qu'en fait, je l'ai vu avant qu'on enregistre le dernier Voyeur de vue, mais j'en ai pas parlé. Alors là, je veux en parler parce que je pense que c'est quand même un film dont je vais aimer parler, je crois. Parce que, bon, La déesse des mouches à feu, c'est basé sur un livre de Geneviève Peterson qui est sorti comme en 2014 et qui est basé sur un peu sa vie à elle en grandissant à Chicoutimi-Nord dans les années 90. Geneviève Peterson est un petit peu plus vieille que moi, mais tu sais, c'est un peu décalé comme expérience, mais c'est grosso modo, tu sais, la première fois que je lisais quelque chose qui était à propos d'être un ado comme moi j'étais un ado. Tu sais, les références sont pas tout à fait les mêmes, tu sais, il y a plus, tu sais, c'est ça, ça se passe en 94, je pense, fait que tu sais, il y a Nirvana, il y a la mort de Kurt Cobain, tout ça, tu sais, qui se passe dedans. Chose que j'étais trop jeune, tu sais, pour assimiler comme du monde. Mais tout de même, tu sais, 6-7 ans plus tard, whatever, 5-6 ans plus tard, quand moi j'avais cet âge-là, les choses n'avaient pas tant changé que ça. Puis ce que je trouve qui est vraiment, tu sais, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Catherine, que c'est au début du film, ses parents qui sont joués par Normand Damour et Caroline Néron, qui est d'ailleurs très bonne. Ben, tu sais, c'est un rôle tout de soutien quand même, là, tu sais, mais elle a quand même du heavy lifting à faire, puis c'est très, très bonne. Ses parents se séparent, puis elle devient un peu plus rebelle, tu sais, elle est un petit peu good girl au début du film, puis elle commence à devenir plus amie avec du monde, tu sais, des genres de métalleux, là, puis du monde qui fume du pot, qui prennent du chimique, puis tout ça, puis en partie en se rebellant contre le fait que, tu sais, à la maison, ça va pas super bien, c'est assez... son père arrive souvent sous chez eux, là, tu sais, comme en pleine nuit pour crier après sa mère, ça va de même. Elle tombe là-dedans, tu sais, dans la musique, puis ses amis qui sont... ils sont joués par... Attends, j'essaie de me rappeler. Son amie, Marie-Ève, c'est Eleanor Loisel. Moi, je l'avais vu dans un film qui s'appelait Dérive. Je pense que c'est son seul film qu'elle a fait avant. Après ça, les deux gars, c'est Robin Lumeau, puis... un des Antoine, là, comme Kevin Laforêt l'a pointé aujourd'hui, je suis pas encore confortable différencier les Antoine de 23 ans du paysage médiatique québécois. Je suis pas capable de les différencier.
Ouais, aux États-Unis, ils ont les Chris, nous autres, on a les ça. Antoine.
C'est Antoine Desrochers, en fait. C'est
d'accord.
Antoine Desrochers, je pense que c'est le seul de cette gang-là que j'ai interviewé. Non, c'est encore faux. Je me suis trompé d'Antoine. En tout cas, ce que j'aimais vraiment du livre, c'est que c'est écrit dans le patois saguenéen que moi, je connais. Tu sais, puis que j'ai jamais vraiment vu démontrer de façon aussi claire. Tu sais, mettons, quand il y a du monde, mettons, Louise Portal fait une Madame du Saguenay dans une émission de TV, elle va dire là, puis elle va parler, mais... Ils vont pas utiliser des affaires comme... surtout des affaires, mettons... ils vont pas utiliser des termes racistes envers les Autochtones, mettons. Ils vont pas utiliser... c'est toutes des affaires que je vais pas vraiment répéter au podcast parce que ça vaut pas vraiment la peine de dire ce genre de niaiserie-là. Mais c'est le langage que j'entendais quand j'étais jeune. Puis, dans le livre qui est une histoire de coming of age d'ado, qui est... Tu sais, je vais le dire, quand même assez standard dans la mesure où ça ressemble à plein d'autres histoires de coming of age d'ado. Moi, ce que j'aimais vraiment de ce livre-là, ce qui m'a me cherché, c'est cette texture-là du Saguenay, tu sais. Qui fait que, tu sais, ça place cette histoire-là, tu sais, une histoire qui est bonne, qui est intéressante, puis qui vaut la peine d'être racontée, mais qui n'est pas nécessairement... à part de plein d'histoires de plein d'autres filles de 16 ans... qui peuvent grandir partout sur la Terre. T'sais. Il y a cet aspect-là qui, je pense, qui est comme un peu coming of age, un peu universel. Puis là, ça campait vraiment dans un lieu, dans un endroit, à un moment spécifique. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec le film? C'est que ça se passe encore au Saguenay, mais à part pour quelques scènes, ils ont pas tourné ça au Saguenay. Ils ont tourné, je sais pas, plus autour de Montréal, je pense, dans Rive-Sud ou Rive-Nord. Et ils ont presque tout enlevé le langage saguenay. Les acteurs n'ont pas des accents du Saguenay et ils utilisent beaucoup. Il y a beaucoup des répliques comme plus savoureuses du livre qui ont été changées ou qui sont pas dedans. Puis ça, tu sais, c'est pas de la faute du film et je te dirais, un film a le droit de faire ça. Absolument. Mais moi, spécifiquement, pour ce film-là, pour cette œuvre-là et cette adaptation-là, ça m'a quand même gossé. Tu sais, puis c'est rare quand même que je vais voir un film puis que j'ai lu le livre, tu sais, parce que je lis pas tant que ça, puis tu sais, puis je trouve quand même que comme critique, c'est pas pareil que le livre. C'est vrai, c'est quand même une critique faible, tu sais.
Ouais, ouais, mais faut peut-être un petit peu plus loin.
Mais là, je vais me permettre de la faire quand même parce que ce que je trouve que ça fait, c'est, tu sais, si mettons moi je suis un tu sais, ça joue à Berlin, mettons, j'étais un ado, j'ai 17 ans puis je vais voir ce film là à Berlin. Ça aurait pu être un film qui vient de n'importe où. Ça aurait pu être un film à propos de n'importe qui. Ça pourrait être à propos de, tu sais, ma voisine, autant que ça pourrait être quelqu'un, tu sais, dans n'importe où, dans les pays, tu sais, développés. Là, mettons, ça, c'est probablement pas, whatever, là. Mais, à part de ça, je trouve que c'est ça. C'est un petit peu buffé, tu sais, c'est un petit peu rendu. Ils ont enlevé comme le pire. Il y a beaucoup, tu sais, c'est très cru comme film, là, tu sais, il y a beaucoup, il y a genre, justement, sur ma review Letterboxd, tu sais, on faisait un jeu, une des questions du ciné-quiz impliquait les pénis qu'on voit d'acteurs québécois,
mm-hmm.
Et Déesse des mouches à feu n'en rajoute un au Panthéon, tu sais, c'est assez cru, c'est assez, c'est intéressant comment c'est, tu sais, puis justement c'est Anaïs Barbeau-Lavalette qui a réalisé, tu sais, fait que c'est ça, c'est encore une fois une excellente idée de qu'une femme raconte une histoire de femme, tu sais, puis que ça soit sa vision, tu sais, son gaze là, en tant que dire, tu sais, parce que c'est cru, il y a de
son
la
regard.
Nudité, son regard, tu sais, c'est cru, il y a de la nudité puis tout, mais j'ai pas l'impression, tu sais, que c'est un film réalisé par un vieux cochon qui était vraiment content d'avoir des actrices de 16 ans pour qu'ils, tu sais, se mettent tout nu là, fait que tu sais, tout ça, c'est bien, mais je trouve que ce que ça raconte comme histoire à la base, c'est tout de même pas... Ça se démarque pas assez, je pense. Puis c'est pas... Je sais pas si c'est de la faute de personne. Tu sais, c'est un peu comme... C'est très adolescent, en fait, comme approche, dans le sens que, tu sais, quand t'es un adolescent, puis ça va pas bien, puis toi, t'es de la merde, personne te comprend... Tu penses que t'es la seule personne à te sentir de même, tu penses que personne d'autre se sent comme ça, puis y a personne qui va jamais te comprendre. Tu sais, fait que toutes les histoires d'adolescents sont uniques, et propres à cette personne-là, mais ça ressemble tout un peu, parce que, tu sais, tout le monde, je pense, passe par le chemin où ce que t'es comme, si personne me comprend, tout le monde est cave, j'ai hâte de m'en aller d'ici, puis... Fait que, tu sais, cet aspect-là, c'est super bien rendu, tu sais, j'ai comme rien à dire contre le film, à part que, justement, en enlevant cette partie-là, qui était quand même, pour moi, une partie importante du livre, ça enlève un peu de la texture, le fun, ou du... tu sais, j'irais même jusqu'à dire de l'âme, un peu, de cette histoire. Tu sais, je sais aussi, pour des raisons de budget, ils peuvent pas tourner... Ils ont pas pu tourner de scène l'hiver. Puis l'hiver est super important dans le livre. Tu sais, c'est aller au camp, tu sais, l'hiver, quand tu restes dans une place qui a rien à faire, puis c'est plate, puis tu sais, tout est loin. En plus, quand c'est l'hiver, c'est doublement de la merde. T'sais. C'est comme, c'est moins grave d'être en punition quand c'est l'hiver, parce que, anyway, si tes amis n'ont pas de char, puis tu vas pas marcher 3000 dans la neige, fait que tu restes chez vous. Mm-hmm. Fait que, en tout cas, toutes ces affaires-là, en tout cas, je trouve ça de valeur qu'ils n'ont pas gardé toutes les affaires du Saguenay. Il y en a quelques, puis en plus, il y en a quelques-uns, il y a quelques tournures de phrases qui ont gardé du scénario ou du livre original. Et, comble de malheur, les acteurs n'utilisent pas la bonne prononciation saguenéenne pour ça. Puis là, ça, j'étais comme, bah, ça, c'est poche, là, tu sais, genre, ça, comme... Puis j'en conviens, là, tout le monde à la maison sont comme, est-ce que c'est petty, ces affaires, genre, est-ce qu'il n'y a pas rapport d'être autant fâché que le film parle pas comme un colon comme lui. Puis genre, je vais vous donner raison, c'est vrai. Mais c'est quand même ça qui m'a gossé de ce film-là. Qui est, tu sais, un bon coming of age, je pense, tu sais. Ça manque peut-être un peu, tu sais, comparé à... Il y en a eu quelques-uns récemment, là. Il y a eu Jeune Juliette, puis il y a eu...
Quispan,
il y a eu aussi Charlotte a du fun, tu sais. Ça manque un... Tous ces films-là sont un petit peu plus... un petit peu plus de légèreté. Ben, Jeune Juliette a beaucoup plus de légèreté, mais tu sais, mettons, même Quispan, qui est comme... quand même assez déprimant, est un petit peu plus léger, tu sais, comme, je sais pas comment dire, c'est pas du tout Watatatao, c'est pas du tout comme Keten et Eve, ce film ne comprend pas les ados, mais justement, je pense que ça manque un petit peu de, je sais pas, de cette finition, je sais pas, de la qualité granulaire que le livre avait. Ceci dit, je suis pas mal sûr que, tu sais, si vous avez, grosso modo, l'âge des personnages, comme, mettons, Yannick, tu sais, je pense que ça va peut-être venir vous chercher encore plus que moi, parce que, tu sais, moi, c'est mon époque, mais pas vraiment, tu sais. Puis, ce que c'était surtout, c'était chez nous, d'où est-ce que je viens, tu sais, avec les référents que je connais. Puis maintenant que c'est ça, c'est pas dedans, tu sais, je sais pas, c'est... En tout cas, tu sais, je pense que si ça vous intéresse, pour vrai, allez le voir, là, ça vaut la peine, là. Mais attendez-vous pas à ce qu'ils disent des vraiment sweet slang des années 90 du Saguenay.
Qui parlent pas de tireux de roche puis des affaires comme ça.
C'est ça. Ben, ils sont à Chicoutimi Nord, donc ils sont les tireux de roche. Donc, okay, ouais. Ils vont pas appeler personne les tireux de roche, mais...
L'héroïne se fait pas traiter de tireuse de roche à un moment donné, là.
Ben non, pas du tout.
Ça, c'est décevant. Ça, c'est vraiment décevant. on va y aller avec notre film de la semaine. Alex, toi et moi, oui. On a visionné, on a parlé de Mimi Leader et d'être au cachot du cinéma. Oui. On parle d'un cinéaste qui sort de ce cachot-là, lui aussi, ou du même qui s'en sort lui-même. On parle de Capone par Josh Trank. Josh Trank, son dernier gros film, était le reboot assez désastreux des Fantastic Four qui est fait pour Fox. Et à cette époque-là, il y avait tout de même le vent dans les voiles, car Josh Trank était aussi supposé faire, à l'époque, un film de Boba Fett pour un Star Wars story qui est probablement qui a été tassé puis qui est maintenant existe sous la forme de Mandalorian sur Disney+. D'ailleurs, que j'ai commencé à écouter, j'ai 4 épisodes dans les aventures de Mandalorian et du bébé Yoda. Et m'a dit que tu te dis, je les ai vus les photos, je les ai vus les gifs de bébé Yoda. Il ne sera pas aussi charmant, il va pas me saisir autant que ça. Mais sais-tu quoi? Guess again. Il charme. À ça, tu vois, dans son concept, dans son contexte, dans ses petites histoires, ce petit bébé-là, cet enfant-là.
Y es-tu plus cool que Babu Frick, par contre? Qu'est-ce qui est plus cool, Babu Frick ou bébé Yoda?
Sais-tu quoi, là, à cette heure que je regarde les épisodes de Mandalorian, là? Je suis comme... Il a tout de même pogné la couronne de Babu Frick. Parce que... Il est tout de même un enfant mignon dans quelque chose de fun. Puis, en tout cas, pas pour faire un gros review du Mandalorian, mais ouais. Je pense qu'il y a une des raisons pourquoi Baby Yoda fonctionne, c'est que son partenaire de scène fréquent de scène porte un casque et on ne voit pas ses réactions. Ouais. Fait que tu vois une marionnette être extrêmement attendrissante, puis tu vois juste un gros casque de Mandalorian qui fait comme « Ouais, ok. » Fait qu'on dirait que c'est ça qui fait que bébé Yoda, il marche, puis que tu comprends pourquoi que... j'ai pas encore décortiqué tout ça, mais il y a quelque chose de vraiment impressionnant dans le fait que cette émission-là fonctionne compte tenu que tu vois pas les expressions faciales du personnage principal. C'est de la façon que c'est écrit puis que c'est filmé, ça communique ça puis ça fait marcher ça tout vraiment bien. Mais bref, c'est toutes des affaires que Josh Trank a pas et semble avoir sacré au vidange, parce que il y a eu beaucoup T'sais, de controverses autour de lui, de son Fantastic Four. Il y a beaucoup son Fantastic Four qui a été rapiécé par d'autres morceaux, peut-être d'autres réalisateurs. Bref, il était en movie, au cachot du cinéma pendant un bout. Mm-hmm. Et son retour au cinéma, c'est ce film-là qu'il a écrit lui-même et qui semble avoir aidé beaucoup pour le financement lui-même, qui s'appelle Capone, qui met en vedette un acteur bien aimé des voyeurs de vue, Tom Hardy. Et on suit, puis on a parlé de biopic, puis de représenter des gens, puis des affaires comme ça. Mm-hmm. Là, on a une proposition tout de même différente. T'sais, on suit Al Capone plus vers la fin de sa vie, alors qu'il est en train de passer, mettons, ses dernières années, ou proche de ses dernières années, en Floride, lorsqu'il est sorti de prison, puis il est reconnu pour plus être dangereux. Alors, on comprend qu'il est comme mis un peu dehors pour finir sa vie, mais que le gouvernement a comme fait ça pensant que ça allait les mener à peut-être de l'argent qu'il avait caché.
Ouais, c'est ça, qu'il aurait caché de l'argent, 10 millions quelque part.
Mm-hmm.
Puis, c'est une affaire que personne ne sait vraiment, parce que lui-même, il commence à être sénile, tu sais, fait qu'il est en train de mourir, puis... C'est ça, fait que c'est, il y a une opération, il y a du monde qui le surveille, dans le fond, des agents de la CIA ou whatever, du FBI, une de ces abréviations-là, mais il est ostensiblement en liberté, mais il peut pas vraiment se mouvoir.
C'est ça, puis on apprend que ça... Capone est rongé par la syphilis, et il est en train comme de devenir dément. Alors c'est ça, c'est cette grande figure-là. On va dire, le véritable spoiler dans le film, c'est à un moment donné, ils disent son âge.
Ouais.
Et tu penses qu'il a comme 75 ans.
Ouais.
Mais il est vraiment plus jeune que ça. T'es comme, tabarnak, c'est ça que ça fait la syphilis. Alors, on a Capone, que justement, il est en train un peu de perdre ses moyens, que ce soit financier, mais aussi son esprit, sa vivacité, qui est entouré par des gens de sa famille, et que lui, il est comme hanté par son passé, justement, surveillé par le gouvernement, puis il essaye de comprendre un peu ce qui lui arrive, de se raccommoder avec son passé. Puis tout ça, c'est ça, c'est le retour de ce cinéaste-là. Puis ça vient aussi avec une performance de Tom Hardy qui a beaucoup été vantée. Tom Hardy, c'est pas un acteur qu'on pourrait considérer. C'est un acteur qui est comme show-off dans ses performances, mais en même temps, il y a aucune vanité aussi.
Ouais.
En même temps.
Ouais, c'est
et on vient de parler de Star Wars, il fait véritablement une voix de personnage de Star Wars. Dans son capot, on a comme une voix de crapaud. Puis il a de l'air d'un personnage de Star Wars qui a besoin d'un gros casque pour survivre.
Ouais, il a de l'air de Snoke un peu, genre.
Ouais, c'est tout le long, je suis comme. I guess que Josh Trank, ils ont mis ses affaires de Star Wars finalement dans un film.
Ouais, c'est ça.
Alors, on suit ça. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Capone, Alex? Vu que c'est toi qui l'as suggéré.
Ouais, j'ai suggéré parce que j'ai vu qu'il était sur Amazon Prime. Puis là, cette semaine, on a appris que Tom Hardy serait peut-être le prochain Bond.
Oui, c'est vrai, ça.
Fait que là, je me suis dit, on va le regarder. Parce qu'on en avait parlé un peu, tu sais, puis c'est sorti au début de la pandémie. Puis ça a été très mal reçu, en fait, je te dirais. Les reviews qui sont sorties étaient pas du tout plaisantes. Et moi, quand je disais, c'est le genre de review que quand je lis ça, je suis comme, OK, ça a l'air d'être extrêmement mon shit. Tu sais, quand le monde, il déteste quelque chose parce que c'est trop dégueulasse, il y a trop de caca, puis de criage, puis il y a du overacting, puis là, je suis comme, oh, je veux le regarder. Tu sais, c'est tout le temps ça qui arrive. Fait que moi, je suis rentré là-dedans avec l'idée que ça allait être quelque chose de vraiment gonzo, tu sais, vraiment. Quelque chose de vraiment, vraiment. Survolté. Ça l'est pas.
Ben oui, parce qu'avec l'idée de c'est Josh Trank qui revient, probablement que tu sais, il y a des comptes à régler, puis là, il va être Buck Wild.
Puis tu sais, puis là, j'avais lu avant de le voir, il y avait des longs, je pense qu'il y en a deux, c'est Vanity Fair puis Esquire, je pense, qui ont fait des vraiment longs profils de Josh Trank où ce que il continue de se caler en étant un peu une graine, mais en même temps, il vend quand même bien le film. Fait que t'es comme, ok, tu sais, je voulais voir ça, je veux voir ça, puis. Ce que j'ai trouvé ça correct. Ce n'est pas le désastre annoncé, je pense. Mais aussi, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus grotesque, plus appuyé, plus intense. Tandis que, tu sais, oui, en décrivant le film, parce que, ouais, tu sais, Tom Hardy joue Al Capone qui a la syphilis, puis il grogne, puis il chie dessus deux, trois fois, puis, tu sais, crie après Matt Dillon, t'es comme, oh, ça va être excellent, tu sais, ça va être quelque chose, ça va être quelque chose d'habité, tu sais, puis ça l'est pas partout, en fait. C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Tu sais, il y a une longue séquence dans le milieu où il hallucine purement, tu sais, puis, mais en fait, toute la deuxième moitié du film, où est-ce qu'il y a beaucoup d'hallucinations puis d'affaires où est-ce qu'il est pas, tu sais, il est pas bien dans son... Il est pas
présent, mettons.
Il est pas présent, ouais, c'est ça. Puis ça, j'ai trouvé ça que c'est ça qui était le plus intéressant. Puis toutes les affaires, il y a d'innombrables scènes de lui assis à table qui fait... pendant que tout le monde y parle, tu sais, puis...
T'exagères pas. L'affaire que tu viens faire, t'as pas exagéré.
Non. Il y a une scène où il y a, je sais pas trop, là, il y a du monde qui sont venus vendre des statues, tu sais, il y a toutes plein de statues autour de sa maison, puis là, il les vend parce qu'il n'y a plus d'argent. Puis là, il est en train de parler à quelqu'un sur le divan, puis là, il se lève, il fait... Il fait des sons de bébite. C'est même pas genre il essaye de parler comme une personne. Il fait juste... Puis là, j'étais comme, wow, OK, ça, ils ont laissé ça dans le film, tu sais. Props quand même, parce que tu sais, quand ça devait être écrit genre Al Capone gesticule, mais là, je pensais pas qu'il allait littéralement, tu sais, c'est très très, il fait des onomatopées, là, tu sais, il fait même pas quelque chose proche d'un son, mais c'est ça, il y a beaucoup trop de scènes, je pense, toute la partie où est-ce que le gouvernement veut retrouver son argent, puis il envoie des agents l'interroger, puis dont un des agents qui est joué par Josh Trank, d'ailleurs. Mais toute cette partie-là, j'ai trouvé ça quand même banal et plate. J'aurais aimé ça que ça soit plus appuyé sur la désintégration de sa psyché, mettons. T'sais, le fait que c'est juste... T'sais, tant qu'à faire un film d'Al Capone où la prémisse, c'est Al Capone est en train de mourir, il n'est plus ce qu'il était, il n'y a plus aucun pouvoir, puis... Ça me semble absurde de dire qu'un film... que cette prémisse-là, dans laquelle Al Capone se chie dessus deux, trois fois, est quand même un peu timide. Mais c'est ça qui arrive. J'ai trouvé ça timide, un peu. Ça a peut-être rapport avec le hype aussi, tu sais. Probablement que si je l'avais vu, tu sais, dans un visionnement de presse avant tout le monde, comme la majorité des fois que je vois un film, peut-être que je serais sorti de là et j'aurais été une des personnes qui est comme « Wow, c'est fou, là, tu devrais voir à quel point c'est too much, c'est over the top, tout est... » Mais je me suis pas senti de même. J'ai trouvé ça quand même assez banal pour ce que c'est. Je trouve que Tom Hardy, tu sais... J'ai vu un review qui disait ça, puis c'est vraiment vrai. Ça rend indéfensible la notion de bon acting comparé au mauvais acting, dans le fond. Tu sais, il y a aucun qualificatif de cette performance. C'est juste... C'est ça, là. C'est ça qui se passe. Puis... T'sais, je me suis pas emmerdé en le regardant non plus, mais je trouvais que pour ce que ça offrait, ça rentrait pas beaucoup en profondeur dans ça. T'sais, c'était beaucoup dans le regard, là, ce grand homme a perdu du galon, puis là il est en train de dépérir, puis après ça c'est juste ça. T'sais. Puis j'en parlais à mon ami tantôt, genre, quand j'étais en train de le regarder, mon ami m'a appelé. Puis il dit, ben un film, as-tu besoin d'avoir une raison d'exister? Pourquoi ça peut pas juste être des scènes? Tu sais, que t'as le goût de voir. Puis là, je suis comme, ouais, I guess. Mais tu sais, je pense que ça, c'est quand même peu... C'est une très basse échelle, là, tu sais. Je veux dire, c'est la première marche, là, c'est que le film ait des scènes que le monde a le goût de voir dedans. Tu sais, ça peut
ouais,
pas
non,
être
c'est
le
clair.
But du film.
Moi, je te dirais, par exemple, je me suis tout de même pas pire emmerdé plus que ça allait. C'est pas qu'il y a des affaires qui sont pas le fun dedans. Moi, quand tu as un personnage, il y a des scènes où Al Capone, il écoute un genre de radio-roman qui est une version comme romancée de lui et sa carrière criminelle. Ça, c'est mon genre de shit. Un personnage qui est confronté à comment d'autres gens le voient ou à une dramatisation ou de lui-même. Quelque chose qui est comme tout de même pas mal méta. Ça, j'aime tout le temps ça. Puis l'idée que lui, qui est un... Tu sais, qui est un... D'ailleurs, il écoute le Magicien d'Oz à un moment donné. Qui est un lion en train de mourir. Puis que là, sa maison, puis ses souvenirs font de lui comme... Ça devient comme une maison hantée de son propre passé violent. Ça, je trouve ça vraiment cool. Mais... on dirait que dans le scénario, il y a comme... Je sais que ça, c'est cool, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que le monde essaye... De la même façon que le monde autour de lui essaye de communiquer avec lui puis de voir s'il est correct ou non, ce film-là refuse de te donner des versions straight de ces histoires-là, de, tu sais, de être surveillé par le FBI, de chasse au trésor, de peut-être reconnecter plus avec sa femme ou de le reste de sa famille, toutes ces affaires-là. Fait que Capone, comme le film et le personnage, comme dans le fond, refuse de faire ça ou on n'est plus capable. Puis ça, je trouve ça cool comme exercice. Cela dit, je trouve ça aussi pas mal plate. Comme, j'ai trouvé ça pas mal plate comme exercice. C'était difficile. Puis l'aspect showcase foufou de ce que Tom Hardy fait, ça, c'est le fun au début. Mais éventuellement, je suis comme, OK, ben c'est encore ça. D'accord.
C'est qu'il devient de moins en moins verbal dans le film. Plus le film va, moins il parle, plus il fait juste comme grogner puis tout. Puis. Je sais pas, tu sais. Le film, aucun, ça m'a fait penser. Puis, je sais pas si c'est vraiment un compliment. C'est Still Alice. Avec Julianne Moore qui a l'Alzheimer's. Puis qui dépérit à travers le film, tu sais. Qui est un peu ce qu'on appelle, mettons, un Disease of the Week, là, tu sais. Justement, on parlait de téléfilm tantôt. C'est une affaire qui souvent était en forme de téléfilm. Puis, la façon que. Même si, tu sais, il y a des affaires épouvantables, Coco Banane, Gonzo, dans Capone, ça suit quand même une structure très téléfilmesque de Disease of the Week. Juste, tu vois quelqu'un devenir de plus en plus malade, puis s'ennuyer de son fils illégitime ou whatever, qu'on n'est pas trop sûr s'il est vrai ou quelque chose de même. Tout ça, tu sais... C'est toutes des bonnes idées, c'est ça qui m'énerve à propos de ce film-là, c'est que c'est toutes des bonnes idées, puis c'est toutes des affaires qui auraient pu être bien exploitées, puis qui sont pas, tu sais, c'est pas un désastre. Mais t'as comme l'impression, c'est une affaire qui arrive souvent avec des films comme ça qui sont, que je trouve qui sont très pas commercial, là, tu sais, dans leur approche de quelque chose que, tu sais, c'est un film qui s'appelle Capone avec Tom Hardy, t'as une image, puis là quand tu vois le film, tu fais ok, c'est vraiment pas ça, tu sais. C'est que on ressent beaucoup les engrenages de quelqu'un qui travaille pour te faire comprendre que c'est pas ce que tu penses.
Ouais.
Puis j'ai beaucoup ressenti ça, tu sais. Puis même il y a des castings bizarres, genre Neil Brennan qui joue dedans, qui joue son avocat, tu sais. Neil Brennan qui est un stand-up que j'ai jamais vu jouer dans un film avant, tu sais. Enfin, il joue dans Half-Baked, là, me semble. En tout cas, tu sais. Il y a beaucoup d'affaires qui sont un peu comme... Ils m'ont dit que je pouvais pas faire ça. Mais je vais le faire pareil. Puis, je pense qu'à un certain moment, il y a une écœur en titre qui s'installe quand il y a... Tous les aspects d'un film sont juste... vous attendez pas à ce que je fasse ça avec le film.
Ouais, c'est... Il y a beaucoup de ça comme... plus que ça allait, j'étais comme, bon... J'étais rendu à la moitié du film, puis je disais... Bon, un moment donné, ils vont nous montrer comme... quelque chose qu'on pourrait appeler Al Capone Prime. Tu sais, que là, ce que tu imagines voir quand je te dis Tom Hardy va jouer Al Capone, mais il va soit, tu sais, faire comme la scène du bijou dans Pretty Woman, tu sais, ouvrir le case puis le fermer immédiatement sur tes doigts, ou il va te le montrer de façon fucked up, pas le fun. Puis le film fait ça, fait les deux. Ce film-là choise les deux. Puis, comme un gros chongus. C'est ça. Fait que, puis, quand je vois ça, je suis comme. Je sais que tu te penses coquin, clever de faire ça, Josh Trank. Que tu te penses bien bon de faire ça. Mais moi, je trouve juste pas ça le fun. Tu sais, j'en retire rien, là. Tu sais, de je pourrais faire cette affaire fun-là, mais je le fais pas. Je suis comme, ben, OK, cool. Je suis pas... moi, j'ai pas l'affaire fun que j'espérais avoir, fait que je suis pas comme... J'ai pas l'impression d'être dans une grosse ride de cinéma grâce à ça, là.
Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord avec ça. Tu sais, je pense que c'est... On peut tracer très clairement la ligne entre je me suis fait essentiellement mettre dehors d'un gros blockbuster qui vient d'un IP, puis j'ai encore des affaires à dire. Fait que tu sais, laissez-moi vous montrer un peu comme comment je ferais. Tu sais, je sais pas trop là. Tu sais, c'est très réactionnaire comme film.
Je comprends ce que tu veux dire parce que comme quelque part un personnage historique, c'est un peu comme une propriété intellectuelle.
Mm-hmm.
Fait qu'il est comme, regarde, je fais un film d'Al Capone, mais là, il se chie dessus au début du film. Puis, l'ouverture du film où c'est vraiment, OK, il a plus autant ses facultés, il faut que les gens s'occupent de lui. J'étais comme, là, j'étais là parce que j'étais comme, OK, voir comme un personnage mythique s'effriter, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis, le monde. Qui voit ce film-là, mettons le monde de notre âge, on est comme, ah ben, il faut entrevoir que c'est des choses qu'on va rencontrer dans nos vies, puis peut-être que, tu sais, ils trouvent ça intéressant d'utiliser comme un gros gangster pour parler de ça. Mais là, ça, c'est évacué assez rapidement. Mais c'est justement, comme tu dis, c'est j'utilise ce gros IP-là, puis vous pensiez pas le voir se faire caca dessus à un moment donné.
Ouais.
Mais regarde, j'en viens de le faire.
La valeur même de cet acte-là, je sais pas à quel point elle est utile. C'est ça que je me pose comme question. Parce que j'ai sûrement déjà parlé de ça au show avant, mais pour moi, là, le concept idéal de biopic, c'est jamais ça commence avec la naissance de la personne, ça finit avec sa mort. Ou genre, ça commence avec. Eux autres au plus... Tu sais, comme le film de James Brown, c'est ça. Ça commence avec James Brown au plus drogué qu'il a jamais été. Puis là, on recule, on va voir comment il a fait pour être drogué de même, tu sais. C'est vraiment... Faut que ce soit une partie de la vie de quelqu'un.
Mm-hmm.
Tu sais, rien de plus, là, que... Un an, tu sais, un album ou whatever, tu sais, une tournée, quelque chose de même, si c'est un musicien, tu sais. Parce que, justement, à un moment donné... Tout le monde a une vie... C'est un peu comme la même affaire que je disais avec la déesse des mouches à feu. Tout le monde a une vie unique, mais à un moment donné, ta vie, elle va ressembler à la vie de quelqu'un d'autre. Tu sais, toutes nos vies sont... On est né, on est jeune, on est des enfants, on est des ados, on est des... Tu sais, je veux dire... Puis, à cause de ça, je trouve que le concept de Capone est vraiment culotté, parce que c'est vraiment rare que tu vas prendre... Tu sais, c'est pour vrai. Mais c'est qu'une fois qu'il est comme « Oh, ça, c'est un concept auquel vous ne nous attendiez pas », on dirait que c'est là que ça plafonne, tu sais, on dirait que ça vient, ça vire un peu dans le beurre rendu là, tu sais, puis j'apprécie quand même le flex, pour ainsi dire, mais, tu sais, je sais pas, puis sur mon Letterboxd, j'ai écrit aussi que je pensais que c'était un film qui allait bien vieillir, puis ça, je le pense aussi, j'ai l'impression que si je réécoute Capone dans 10 ans, tu sais, avec le recul de probablement qu'est-ce que Tom Hardy va faire dans sa carrière, de quoi les films vont avoir l'air dans 10 ans. Je vais peut-être voir ça comme quelque chose de plus avant-gardiste et de plus éclaté comme proposition que ce que ça me semble maintenant. Mais tu sais, en même temps, je peux pas baser mon opinion des films sur comment je pense que je vais penser d'eux autres dans 10 ans.
C'est ça. Hey, mais,
c'est dur à...
Une affaire que je veux parler, que j'ai juste un genre de flash, de là, tu parles de biopic qui trace la vie entière de gens. Selon toi, est-ce que les biopics, qu'ils soient musicaux ou non, ont toujours été comme ça? Ou c'est juste récent? Parce que quand tu as parlé de ça, je me suis immédiatement mis à penser à Forrest Gump, puis comment Walk Hard, qui parodie les biopics, t'sais, qui passe à travers la vie de quelqu'un, puis qui passe à travers comme ça. Est-ce que toutes les biopics sont comme inspirés de Forrest Gump maintenant, ou du moins ceux qui sont musicaux?
C'est une bonne question. Je pense que ça date d'avant ça. Parce que, tu sais, il y a, mettons... j'ai sorti une liste de biopics qui est beaucoup plus longue que je pensais qu'elle allait être. Mais, ben, tu sais, comme, mettons, The Doors, là, ça date d'avant.
Ouais.
Il y a énormément des clichés du biopic qui sont dans The Doors. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme... C'est un peu un résultat du fait que le... Juste avec le temps, tu sais, le pace d'un film, le rythme d'un film, c'est à accélérer. Fait que ça a rendu ça plus propice à, tu sais, passer rapidement à travers des éléments autobiographiques, ou pas autobiographiques, des éléments biographiques d'une personne. Puis je pense aussi, parce que, tu sais, là, je regarde, il y a plein de biopics que j'ai pas vus, mais avant, effectivement, je pense qu'on focussait plus sur une partie de la vie de quelqu'un. En jugeant par ce que je vois là. Puis tu sais, puis il y en a qui sont vraiment nuls à chier. Il y a un film de Che Guevara avec Omar Sharif là, que j'ai vu il y a peut-être 10 ans. Puis Jack Palance qui fait Castro.
Aïe.
Ça, c'est un film qui en a trop dedans. Tu sais, comme il y a trop d'affaires dedans. Puis déjà, ça part mal parce que le casting est très étrange.
Mm-hmm.
Mais c'est un film qui essaie trop d'en faire, tu sais, pour. Puis que c'est pas un épique historique, là, tu sais. Parce que je pense qu'avant, c'était beaucoup ça, tu sais. C'était des épiques historiques. Parce que veux pas, tu sais, mettons, whatever, les années 60-70, tu faisais pas. Tu faisais des biopics sur des plus des personnes issues de l'histoire, tu sais. Tandis que là, biopic, maintenant, on a plus l'impression du monde qui sont morts quand même récemment, tu sais.
Mm-hmm.
Personne dit que The Favourite, c'est un biopic, mettons, tu sais. Mais c'est tout de même un film basé sur des vraies personnes, donc ça devrait autant être un biopic.
C'est le meilleur film basé sur des vraies personnes, The Favourite. Faudrait qu'on fasse officiellement un épisode de The Favourite un moment donné, mais je sais pas qu'est-ce que je dirais, excepté que Chris, que c'est bon. Écoutez-les. D'ailleurs, en nouvelle de biopic, Madonna va réaliser son propre biopic. C'est ben ça, ouais, cette semaine, Colin.
Je suis pas contre, là. Je veux dire.
Penses-tu qu'elle va parler de quand elle a fait Dick Tracy?
Moi, j'ai l'impression que ça va être full quand t'étais jeune, puis juste un petit peu, tu sais, ça va être un peu comme le film des Beastie Boys. Les Beastie Boys qui ont ouvert pour Madonna, d'ailleurs, puis qui en parlent dans le documentaire. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, elle devient comme, tu sais, sage ou whatever, elle devient comme adulte.
Mm-hmm.
Puis ça, là, j'ai l'impression que le monde qui raconte leur propre histoire sont aucunement intéressés de parler de cette partie-là de leur vie. Fait qu'ils sont juste comme, j'étais wild, j'étais fou, puis là, voici ce que je fais maintenant. T'sais, même avec des livres, des biographies, genre, je pense à Brick Smith, qui était la bassiste de The Fall, du band britannique The Fall, qui était mariée avec le chanteur. J'ai lu sa biographie, puis elle, sa biographie, t'sais, The Fall, elle a été dans The Fall quand même comme 4-5 ans, mais t'sais, elle a arrêté d'être dans The Fall en comme 87, puis ça, c'est à peu près la moitié du livre. Pis là, le reste du temps, c'est quand je me suis ouvert une boutique de jeans, puis là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis c'est comme... Ouais, c'est pas pour ça que j'avais, tu sais, je comprends, c'est vrai, c'est ta vie, tu sais, mais j'ai comme l'impression qu'elle veut en partie qu'on aille encore à sa boutique de jeans, tu sais, c'est, on voit souvent ça avec, tu sais, je sais pas, du monde qui doivent raconter leur propre histoire, ils veulent beaucoup parler de qu'est-ce qu'ils font maintenant, tu sais, plus que...
Ouais, c'est pour ça que je pense... C'est pas le passé le plus intéressant de ma vie, là, c'est ce qui se passe en ce moment, là.
C'est ça, tu sais, puis c'est pour ça que je pense que Madonna... Là, elle a annoncé ça, mais check ben, il va avoir un album concept qui va sortir avec. Ça va être genre Ma vie, My Life, Madonna. Puis le film va être un. J'imagine, là, je fais juste supposer ça. Mais le film va être un peu conçu pour vendre cet album. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus multimédia qui est rattaché à ça. Là. D'ailleurs, Madonna a déjà réalisé des films, mais je l'ai pas vu. Il y en a un qui s'appelle WE, puis je pense qu'il y en a peut-être un autre. Mais je n'ai pas vu, donc je sais pas si elle est qualifiée pour... Ben, pourquoi pas, ouais, sûrement. Il n'y a personne de plus qualifié qu'elle pour réaliser un film sur sa vie. Après ça, un bon film sur sa vie, je sais pas.
Ah ouais, ça c'est une autre affaire.
C'est ça.
Ben, en tout cas, je pense qu'on vient comme de boucler une boucle, alors je crois qu'on va terminer l'épisode là-dessus.
Ouais.
Alex, les gens qui veulent suivre tes vinyles, tes opinions, oui. Tes chroniques, ils te trouvent où?
Why Does It Exist sur Instagram et sur Letterboxd. Je suis Alex Rose, deux petites barres en dessous sur Twitter, et cultmontreal.com pour le reste.
Pour ma part, c'est Yannick Belzile sur Instagram où il y a des dessins, sur Twitter où je parle un peu de pop culture, sur Facebook aussi. Où ce que je parle, où ce que je fais des dessins, cartoonistes robustes. Et bien sûr, vous écoutez cette émission-là grâce au Patreon de Trois-Bières. Alors, si vous souhaitez encourager les voyeurs de vue et la production de Trois-Bières en général, vous pouvez nous encourager au patreon.com/Trois-Bières. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, allez voir une vue. Yeah.